Notre invité du jour pour cette demi-heure qui va suivre, on va parler foot et pas n'importe quel football, du foot féminin. Camille Naude, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler d'un événement que vous organisez, c'est la Women's French Cup. Vous êtes à sa troisième édition, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
C'est en août. L'événement revient à Toulouse avec quatre des meilleures équipes européennes féminines de foot qui s'affronteront donc normalement au stade Bendichou de Coulommiers.
Exactement, ouais, c'est ça.
Tout est juste.
Tout est juste.
Ça se déroule donc au début du mois d'août. Est-ce que vous avez les dates officielles ?
Oui, on a annoncé les dates il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Ça sera donc le mardi 6 et le jeudi 8 août. Ça sera par contre en fin de journée, on le précise, parce que les gens n'auront pas besoin de poser leur après-midi pour venir voir du foot féminin. On a un premier match qui aura lieu à 18h et un second match à 21h.
D'accord.
Alors cette année, vous attendez encore plus de monde que l'année dernière. Vous pensez bénéficier un petit peu de l'effet Coupe du Monde de football féminin qui va se dérouler en France ?
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on sera trois semaines, un mois après la Coupe du Monde, après la finale de la Coupe du Monde, où on espère que les Françaises participeront. Et gagneront, on espère aussi, bien sûr. Donc, effectivement, on n'a pas la chance à Toulouse de pouvoir recevoir des matchs à l'occasion de la Coupe du Monde. Donc, nous, on a envie un peu de surfer sur ça, bien sûr, et de dire aux gens, bah, voilà, vous les avez sûrement vus à la télé à un moment donné, vu le dispositif qui est mis en place pour cette Coupe du Monde par TF1. Donc, venez les voir au stade, parce qu'on espère que parmi les équipes qu'on va recevoir, il y aura évidemment des champions du monde.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre cet événement en place ici, à Toulouse, de la Ville Rose ?
Parce qu'on est tous Toulousains par rapport à l'association qu'on a créée, qu'on a fondée il y a 4 ans maintenant. On est une équipe à peu près de 6 personnes. 6 à 7 personnes à travailler de façon quasiment permanente sur le tournoi pendant 6 mois. Et on est tous Toulousains et Toulousaines et on a tous eu, à un moment donné, jouer au football. Donc c'était tout naturel de réaliser ce tournoi chez nous, à Toulouse.
Mais pourquoi ici ? Parce qu'au final, c'est pas vraiment une terre de foot, Toulouse, et encore moins de foot féminin, du coup.
Et alors, c'est une fausse info, pardon Léo, parce que le TFC a très 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 longtemps été le meilleur club en France, voire en Europe.
Plus aujourd'hui, par contre.
Plus aujourd'hui, par contre. Mmh. Effectivement, elles sont en division 2 et elles sont en train de se maintenir là en ce moment pour rester à ce niveau-là. Mmh. Mais c'est vrai que le TFC, à l'époque où moi j'ai commencé à jouer au football, donc il y a 20 ans de ça, un peu moins, c'était quasiment le meilleur club en France. La plupart des filles qui évoluent au TFC étaient membres de l'équipe de France féminine. Mmh. Donc en fait, il y a énormément de filles qui jouent au football en Occitanie, énormément, beaucoup de clubs. Je crois que c'est la plus forte région après Paris en termes de licenciés féminines. Donc en fait, il y a beaucoup de jeunes petites filles aussi qui jouent et qui jouent de plus en plus. Donc il y a un vrai vivier de spectatrices et de fans à Toulouse.
Donc Toulouse, vraiment terre de football féminin. Mmh. Alors l'an dernier, Montpellier, Paris, le Bayern Munich et Arsenal s'affrontaient. Est-ce que cette année, ce sont les mêmes équipes qui vont revenir ?
On n'est pas loin. On n'est pas loin sur le plateau. On a Montpellier, de toute façon, qui est notre club de cœur et puis de la région qu'on invite chaque année, bien sûr. Le Bayern de Munich, qui est un club à la rigueur allemande, c'est-à-dire qui nous a démarché dès le mois d'octobre dernier.
Donc c'était tôt.
C'était très tôt pour nous, presque trop tôt, mais elles sont comme ça. Et puis elles sont du coup, elles reviennent avec a priori grand plaisir et nous aussi. On a du coup les deux autres clubs qu'on n'a pas encore dévoilés parce que sur ça on va faire un peu teasing et je vais me faire engueuler par la com si moi je dévoile l'équipe aujourd'hui, donc je vais pas le faire.
On laisse la surprise alors.
Mais on laisse la surprise et on aura encore une fois un très très beau plateau d'un niveau de Ligue des Champions.
Et alors pourquoi pas le TFC du coup, qui est l'équipe de la ville ?
Ouais, bien sûr, bah parce que le TFC malheureusement ça serait pas forcément intéressant de les faire concourir à ce genre de tournoi. Mm-hmm. Par rapport à leur niveau, tout simplement. La première année, on les avait invités à faire un match d'ouverture, un match de gala, contre une association qui s'appelle Un Maillot pour la Vie, qui est aussi une asso nationale, mais qui œuvre beaucoup du côté de Toulouse. Donc c'était très sympa. C'était au stade Ernest Vallon, elles avaient eu l'occasion de jouer pendant 90 minutes sur une pelouse et dans un stade emblématique. Mmh. Mais c'est vrai que les faire jouer contre des grandes équipes, notamment contre Montpellier, ou l'an dernier contre Arsenal, ou le Paris Saint-Germain, ça serait intéressant a priori pour pas grand monde.
Et comment est-ce que vous réussissez à faire venir de tels clubs européens ? C'est des très grosses marques. Comment vous organisez cette venue à Toulouse ?
C'est une énorme organisation, comme vous pouvez vous en douter. Alors comment on les fait venir ? Bah, tout simplement parce qu'il n'existe pas beaucoup de tournois de ce type-là dans le monde. Il y en a deux en fait, il y en a un aux États-Unis qui existe depuis maintenant 2 ans et puis il y a le nôtre depuis 3. Il y a d'autres tournois, bien sûr, qui se créent un petit peu sur le tard entre des clubs qui se contactent un peu au dernier moment, mais de façon comme ça, très récurrente et pérenne, il n'y en a pas tant que ça. Donc nous, on commence à s'inscrire un peu dans la durée. Les clubs commencent à savoir, effectivement, que ce tournoi existe. Cette année, on a eu aussi des clubs asiatiques qui ont été intéressés.
D'accord,
donc
oui.
Malheureusement,
de loin.
Ouais, on ne peut pas les accueillir parce qu'on se limite à 4 équipes pour l'instant. Effectivement, pour en revenir à la question, c'est parce que c'est une très, très grosse organisation. Mmh. ça sous-entend de gérer la logistique de A à Z dans la réception de ces clubs, et c'est des clubs pro, donc elles ont des exigences de joueuses professionnelles.
Alors par rapport au tournoi justement, qu'est-ce que recherchent les équipes qui viennent ? Est-ce que c'est un peu une préparation avant le début de saison, de la nouvelle saison ?
Oui, c'est complètement une préparation, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas pour s'amuser, pour rigoler. Elles apprécient pour autant le côté très familial et convivial du tournoi, mais elles sont là pour jouer, elles sont là pour gagner. La plupart des joueuses sont en préparation, donc elles montrent aussi leur place au coach, parce que c'est souvent des effectifs de 25 joueuses qu'on reçoit quand même pendant le tournoi, donc il y a beaucoup de turnover. Mmh. Et le but à ce moment-là, c'est pour elles de faire leur place et de rentrer dans le vif du sujet, dans ce qui sera leur saison.
C'est peut-être aussi pour certaines équipes le moment de lancer certains jeunes.
Exactement, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain l'an dernier est venu avec une équipe, je crois que la moyenne d'âge c'était 19 ans.
Ah oui.
Donc on avait énormément de jeunes et beaucoup qui ont explosé d'ailleurs durant la dernière saison. On pense à Katoto notamment, mais on a des équipes qui viennent avec des jeunes joueuses et qui osent les faire jouer.
Vous avez décidé de changer le nom de ce tournoi. Avant c'était la Toulouse Ladies Cup, maintenant c'est la Women's French Cup. Pourquoi ce changement de nom ?
Plusieurs raisons. La première, c'est que le mot ladies était un peu, on en a convenu, vieillot entre nous. Voilà. Donc, c'était bien la première année, la deuxième, mais c'est vrai qu'on avait envie d'être un peu plus moderne dans le nom, d'être un peu plus national aussi, de pas forcément se focaliser sur la ville de Toulouse, parce que finalement, ça fait 2 ans qu'on est à Colomiers. Donc, c'est la métropole à laquelle on pense quand on pense à l'organisation de ce tournoi. On se ferme pas les portes aussi demain à l'organiser ailleurs. Donc, on avait envie de donner un nom un peu plus international à ce tournoi.
Mais avec French Cup, on s'attendrait qu'à des équipes françaises, non ?
Ouais, alors après, on voulait garder le côté français quand même, c'est important, okay. Parce que c'est un tournoi français, a priori fait avec un savoir-faire, si tant est qu'on en est, mais quand même français, donc on avait envie d'être un peu chauvin et de garder le mot, à un moment donné, français dans le nom. Ouais.
Alors c'est vrai que, mis à part le nom donc, qui a changé cette année, il va y avoir d'autres changements aussi ?
Pas a priori, parce qu'on reste sur 4 clubs. On reste sur 4 clubs. Après, il y a un gros changement quand même, c'est qu'au niveau médiatique, on a la venue d'une télé. Ça aussi, on peut le dire. Donc, c'est l'équipe qui viendra diffuser et couvrir en direct l'ensemble du tournoi, l'ensemble des 4 matchs. On était à Paris la semaine dernière pour négocier les derniers accords, notamment les horaires des matchs. C'est important. Donc, l'équipe va mettre un dispositif aussi très important de com autour du tournoi dès le mois de juin et viendra couvrir en direct les 4 matchs.
Ça fait maintenant plusieurs années que vous organisez ce tournoi. Vous devez sentir un engouement qui vient au fur et à mesure des années, non ?
Ouais, c'est vrai que par rapport au tout l'aspect des partenaires dont moi je m'occupe plus particulièrement, c'est vrai que c'était la première année où on nous prenait un peu pour des fous, c'est-à-dire qu'on nous a cru sans trop nous croire, en fait on nous a cru les gens qui étaient autour de nous et avec qui on a l'habitude de travailler, oui, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué d'aller chercher des partenaires d'envergure nationale voire internationale. C'est plus simple aujourd'hui, on a la chance aussi d'être sur une année Coupe du Monde féminine. Donc les gens sont à la recherche, ceux qui n'ont pas pu être partenaires en tout cas de ce gros événement, sont à la recherche d'événements un peu parallèles. Et on est bien tombé effectivement cette année, donc il y a un engouement. Puis on commence à être sur une 3e édition, donc on a presque des fidèles finalement qui reviennent et qui attendent les dates chaque année. Donc ça c'est chouette aussi pour nous, en termes d'animation et de communauté, ça devient intéressant pour nous à animer. Ouais.
Est-ce que le stade est toujours plein ?
Alors le stade n'était pas tout à fait plein l'an dernier, donc le vrai défi cette année c'est qu'il soit plein et ça sera le cas, ouais, on est quasi sûr.
Et cet engouement, est-ce que vous le sentez dans le foot féminin en général ?
Ben nous, en tant que joueuses, ça fait 20 ans qu'on essaye de le sentir et qu'on espère. Ça fait, je dirais, 5 ans maintenant que c'est quand même très concret. Parce qu'en effet, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes filles qui arrivent dans des clubs pour jouer. Et ça, c'était pas le cas quand nous, on jouait. Il y avait très peu de filles. Elles étaient très souvent mélangées dans les sections masculines, finalement. Donc on jouait en mixité déjà et c'était quelque chose de très positif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes filles qui viennent dans les clubs de façon complètement décomplexée, parce qu'elles jouent au football comme elles joueraient au basket ou comme elles iraient sur une piste de danse, quoi. Finalement, il n'y a pas de différence. Donc on sent un vrai engouement auprès des jeunes, surtout, et ça c'est hyper positif. Et c'est aussi un travail qu'on mène avec l'association auprès de collèges, auprès de clubs, dans des quartiers notamment en difficulté, dits prioritaires en tout cas. Et on sent aussi qu'aujourd'hui, les mentalités, même chez ces jeunes enfants, changent entre 6 et 12 ans. Voilà, les garçons acceptent parfaitement que les filles jouent et jouent parfois mieux qu'eux au football. Et ça, on le voit. Et les filles jouent de plus en plus au foot dans la cour de récré, ouais.
Donc mobiliser les jeunes, c'est aussi ce que vous faites. Alors Fatma Samoura, la numéro 2 de la FIFA, a affirmé à nos confrères de Libération il y a quelques jours que, je cite, le football masculin ça paye et le foot féminin ça coûte. C'est vrai qu'aujourd'hui, peu de joueuses finalement de football vivent vraiment de leur passion. C'est encore un statut qui est souvent semi-professionnel.
Ouais, alors ça dépend de quel pays on parle. En France, effectivement, c'est vrrai qu'on a un peu de mal à passer ce cap-là de rendre la D1, c'est-à-dire l'équivalent de la Ligue 1, absolument professionnelle. Il y a encore des clubs qui sont semi-pro, mais on voit qu'en fait, à terme, les petits clubs, entre guillemets, comme Rodez, encore cette année, qui était un des derniers clubs non professionnels, ben, redescend en Division 2. Donc je pense qu'à terme, on va quand même arriver à un championnat 100% pro. Il faut savoir qu'en Angleterre, en 5 ans, bah, quasiment tous les clubs sont devenus professionnels et toutes les joueuses aussi. Ouais. Donc il y a un gros travail qui est fait du côté de l'Angleterre. En Allemagne, elles sont aussi historiquement quasiment toutes professionnelles. En Espagne, ça se développe aussi énormément. Donc je pense que la France va devoir prendre le pas sur ses autres pays voisins parce que tout le monde devient pro autour et le niveau évolue du coup.
C'est dans quel pays où le football féminin est le plus évolué ?
Ben, je dirais que c'est les États-Unis historiquement. Le Japon, c'est moins connu, mais effectivement, le Japon est aussi un pays de football féminin. Et après, on a l'Allemagne, en Europe, qui est quand même la nation du foot féminin.
Alors, est-ce qu'il y a des centres de formation féminine en France ?
Oui, alors, à ma connaissance, il y en a évidemment à Lyon, il y en a à Paris, il y en a à Montpellier, mais effectivement, c'est à peu près tout. Donc, il y en a un qui se crée l'an prochain au Paris FC, si je dis pas de bêtises. Et après, c'est vrai que c'est pas évident. Et je pense que c'est aussi un des freins à la professionnalisation. C'est que tant qu'il n'y aura pas de centre de formation pour les filles, a priori, il n'y aura pas de joueuses pro qui suivront derrière.
On sent quand même un manque de moyens important dans le football féminin. Et ça se confirme à travers des chiffres. Un club comme l'Olympique Lyonnais, qui est une référence en Europe au niveau du football féminin, le budget oscille entre 7 et 8 millions d'euros. C'est dérisoire par rapport au football masculin.
Ouais, c'est clair. Je connaissais pas le montant, mais c'est vrai que c'est dérisoire. À côté de ça, je crois que Jean-Michel Aulas est le premier à être plutôt ravi des résultats de son équipe féminine, qui, je crois, est le seul club qui rapporte de l'argent aujourd'hui. À Lyon, je crois pas que ça en coûte. Puis c'est surtout en termes d'image et de notoriété, donc il faut faire la part des choses entre effectivement l'intérêt financier que pour présenter une section féminine professionnelle et la bonne image en termes de notoriété et ce que ça peut véhiculer comme valeur, ouais. Mais en effet, on est loin, très très loin du niveau des garçons financièrement.
Et Lyon qui joue une finale de Ligue des Champions contre Barcelone, un pronostic peut-être ?
Ouais, je vais être encore chauvin. Non, je pense que Lyon, aujourd'hui, pour détrôner Lyon, c'est quand même encore très très compliqué. Magnifique parcours de Barcelone. Moi, personnellement, je les aurais pas attendus à ce niveau-là. J'ai été agréablement surprise. Donc ça prouve aussi que effectivement, les clubs et les pays voisins se mobilisent pour ce sport. Et on voit les affluences qu'il y a dans les stades en Espagne, en Italie aussi, qui commencent vraiment à pousser. Et c'est assez incroyable. Donc je dirais que Lyon va sortir vainqueur de cette finale. Mais magnifique parcours du FC Barcelone. Ouais.
Alors on en parlait tout à l'heure, dans une vingtaine de jours, du 7 juin au 7 juillet, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football. Alors 7 matchs seraient déjà complets, 770 000 billets sur les 1,3 million disponibles ont déjà été écoulés. À noter que 60% des billets ont été achetés en France. Alors c'est une victoire selon vous, les mentalités changent aujourd'hui encore ?
Ouais, complètement. Je pense que d'ailleurs on le mesure pas encore trop tous parce que c'est une Coupe du Monde malgré tout qui reste féminine. Malheureusement, il ne faudrait pas le préciser, mais bon, il faut quand même le faire. Mais je pense qu'une fois qu'on sera le 7 juin, jusqu'au 7 juillet, de toute façon, les gens n'auront pas le choix. Ça sera sur TF1, tous les matchs de l'équipe de France sont diffusés en direct. En plus, ça sera en France, donc il y aura énormément, je pense, d'engouement autour de cette Coupe du Monde. Il faut savoir que 30% des Américains ont acheté aussi les billets sur les 760 000 vendus. Les Pays-Bas aussi ont joué le jeu et viennent en masse suivre leur équipe. Donc je pense qu'on va avoir, je pense qu'il y aura un avant et un après. J'espère aussi, je ne sais pas en tant qu'organisatrice d'un tournoi de sport féminin que je le dis, mais je pense vraiment que ça sera différent après. Et si en plus l'équipe de France fait un résultat, je pense que ça va changer pas mal de choses. Ouais.
Justement, si la France gagne en France, qu'est-ce que ça pourrait changer ?
Déjà, je crois que ça serait inédit que des garçons et des filles fassent un doublé dans la foulée. Donc ça serait historique. Et ça serait bien qu'on ait un record de ce type-là. Après, il ne faut pas trop compter entre guillemets sur la victoire de l'équipe de France pour dire que ça va porter le foot féminin, parce que j'espère que ça se répercutera aussi sur les autres clubs qu'on va voir, sur les autres nations. Il y a l'Australie qu'on n'attend pas trop, qui a priori est une équipe qui est à peu près très compétitive. Il y a des équipes africaines, il y a des équipes asiatiques, il y a des équipes, voilà, donc je pense que les gens vont aussi découvrir le foot féminin, que le foot féminin se joue partout à un très très haut niveau. J'espère qu'on n'aura pas des scores fleuves de type 10-0 comme ça a pu être parfois le cas sur certaines Coupes du Monde. Je crois que le niveau se resserre vraiment. Le Brésil aussi va venir avec une couverture médiatique sans précédent dans le pays, donc ça va être assez incroyable. Après, on souhaite tous évidemment qu'en France, chez nous, l'équipe de France performe. Je pense que Corinne Diacre a fait en sorte que ça soit le cas. La sélection me paraît très bonne, les joueuses paraissent aussi très motivées, on en connaît certaines, donc elles attendent ça avec grande impatience. Ouais.
Le match d'ouverture, c'est France-Corée du Sud. Ce sera le 7 juin au Parc des Princes. Au total, 9 villes accueilleront les rencontres des 24 équipes nationales présentes et 2500 volontaires seront mobilisés pour l'occasion. L'édition 2019 sera retransmise en direct dans plus de 200 pays avec 1 milliard de téléspectateurs espérés par la FIFA. Et Toulouse n'accueille pas de match. Comment vous pouvez expliquer ça ?
Eh bien, il faudra demander à Monsieur le maire et à l'équipe des sports pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas candidaté pour recevoir la Coupe du Monde. Surtout que, bon, après Montpellier, c'est quand même pas si loin et ça reste la région, bien sûr. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de par la localisation aussi. On n'est pas loin de l'Espagne, on n'est pas loin de l'Italie. Voilà, c'est de l'Afrique aussi, du coup. Je pense qu'on est le pays, enfin, la ville la plus au sud, effectivement, après Montpellier. Donc, c'est un peu dommage.
On a les moyens aussi.
On a les moyens, clairement. On avait un stadium qui pouvait complètement accueillir cette compétition. On a surtout les Jeux en 2024. On accueillera des matchs de foot masculins et féminins. Ça aurait pu être une terre d'essai pour cette compétition-là. Dommage, on n'est pas au rendez-vous. Il y a d'autres villes qui ont saisi leur chance et je pense qu'elles ont eu bien raison de le faire. Et nos voisins de Montpellier accueillent 5 matchs, donc ça va être à aller voir et pour aller se déplacer sur Montpellier pour aller voir des matchs. Ouais,
oui, parce qu'il y a par exemple Le Havre qui peut paraître bizarre dans la liste, et pas Toulouse.
Oui, complètement. Le Havre, Rennes, il y a beaucoup de villes dans le nord et finalement assez peu dans le sud. Bordeaux aussi n'a pas candidaté et c'est dommage, parce que c'est pareil, ça aurait pu être intéressant pour cette ville. Après, j'imagine que c'est des choix politique, que c'est des choix à un moment donné de recevoir tel ou tel événement. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que ça reste un événement envergure internationale et que ça aurait été intéressant que Toulouse accueille.
Et le football féminin, on en parlait tout à l'heure par rapport aux licenciés. Donc en France, le football féminin rassemble actuellement 180 000 licenciés. L'objectif de la fédération est d'atteindre 200 000 à 250 000 licenciés après la Coupe du Monde. Alors à Toulouse, est-ce que vous pensez que le message est passé ? Est-ce que vous pensez que le nombre de licenciés pourra grimper ?
Alors déjà, suite à la victoire des garçons l'an dernier, ça a forcément augmenté chez les garçons et chez les petites filles. Mm-hmm. Ça, c'est toujours un effet doublon. Est-ce que dans l'autre sens, ça va fonctionner aussi ? Est-ce que la victoire des filles, potentiellement, va amener plus de garçons ? Bon, je crois que de toute façon, on est sur une baisse du nombre de licenciés chez les garçons, tandis qu'on est sur une augmentation chez les filles en ce moment. On est loin, nous, d'avoir le nombre de licenciés des garçons, mais ça évolue quand même petit à petit. Et il est évident que s'il y a une victoire de l'équipe de France féminine, ne serait-ce qu'une finale, je pense que ça boostera le nombre de licenciés d'autant plus. Peut-être plus pour rassurer les parents que pour les enfants. Mm-hmm. Je pense que les jeunes filles, ça y est, c'est dans les mentalités. Aujourd'hui, elles jouent au foot, comme je vous disais, de façon vraiment décomplexée. Nous, on le voit au quotidien dans les quartiers dans lesquels on intervient. C'est plus par rapport aux parents, peut-être, d'avoir un changement de mentalité et ça peut y contribuer, j'en suis persuadée.
Est-ce que vous trouvez, par rapport à votre événement que vous organisez, justement par rapport au public qui vient lors de cet événement, est-ce que c'est plus des femmes, des familles, des jeunes ? Est-ce que vous ressentez qu'il y a aussi un changement de ce côté-là, le même public que pour les matchs masculins où on a un public féminin ?
Ouais, complètement. Nous, on a la particularité parce qu'on a, après 2 ans maintenant, des chiffres qui nous permettent de faire un retour. On a la particularité d'être un événement de foot qui accueille autant de femmes que d'hommes. Donc on a 50-50, d'accord, quasiment, égalité parfaite. Non pas qu'on les fait exprès, mais c'est comme ça que ça se traduit. Beaucoup, beaucoup de familles, effectivement. Beaucoup de parents qui viennent avec leurs jeunes filles et leurs jeunes garçons venir voir du foot. Donc ça, c'est une vraie fierté pour nous aussi, pour pouvoir dire qu'on accueille et qu'on amène à voir du foot féminin autant de garçons que de filles.
Vous savez combien de personnes sont venues l'an dernier ?
2500, je dirais, et on avait l'équivalent de 300 partenaires, donc on avait 3000 personnes à peu près sur site par jour.
Et pour cette année, vous avez un chiffre ?
Ouais, j'espère qu'on atteindra la barre des 4000, 5000, sachant que si on accueille 5000 personnes, ça veut dire que la tribune principale sera vraiment entièrement remplie, qu'on aura peut-être même des problèmes de riches à devoir mettre des gens sur de l'autre côté de la tribune, du côté de la tribune présidentielle, en balcon. Donc ouais, on espère entre 4000 et 5000 personnes cette année.
Et par rapport aux sponsors, justement, aux partenaires, vous pensez que ça va un petit peu augmenter, peut-être ?
Oui, bah, tout à fait. Nous, on a la chance d'avoir 4 partenaires majeurs magnifiques, dont Airbus. Et c'est vrai qu'Airbus, c'est quand même une institution à Toulouse. Ça fait 2 ans qu'on était en négociation avec Airbus. Et ce qui les a vraiment fait prendre leur décision, c'est tout l'aspect action socio-éducative qu'on mène dans les quartiers, diversité. C'est d'ailleurs le service diversité et communication qui nous sponsorise sur cet événement. Donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir Airbus, grande fierté d'avoir Engie, d'avoir Carrefour, d'avoir le groupe Parapharmacie Lafayette. On a aussi des locaux, la Mutuelle du Rempart qui nous suit depuis quasiment le départ, Tonnerre d'Ancre aussi qui est une institution toulousaine. Donc voilà, on a aussi les différents clubs qui sont au courant, le TFC, le Stade Toulousain qui nous accompagnent aussi à leur manière. Donc on a vraiment sur ça passer un cap aussi par rapport aux partenaires qu'on arrive à mobiliser sur l'événement.
vous organisez des actions aussi pour inviter justement tout le monde à venir voir ces matchs. Ça se passe où? Ça se passe comment?
Oui, alors on a passé un partenariat il y a maintenant 3 ans de ça, dès le début, avec la Fédération Française de Football, le service féminisation, notamment avec Frédéric Jossinet et tout son service avec qui on travaille vraiment très bien, et avec la Ligue de Football Occitanie, qui nous permettent d'inviter en fait toutes les licenciées féminines de la région. D'accord. Donc ça fait 3 ans qu'on sort une billetterie spéciale, vraiment pour les joueuses, donc elles accèdent au tournoi gratuitement. Et ça, c'est intéressant de le dire, effectivement. On va lancer la campagne d'ici fin mai, début juin. Mais comme chaque année, elles auront droit à venir gratuitement. Elles auront une licence de football, elles auront une place pour le tournoi. Et elles pourront venir y assister. Donc après, ça passe par des opérations, un petit peu de street marketing, un peu moins cette année. Mais ça sera surtout sur, nous, une grosse phase de phoning, de mailing, où on invite les clubs et on leur reprécise qu'ils sont invités. Et après, on a la chance cette année, effectivement, d'avoir des partenaires comme la Parapharmacie, Burger King, qui vont communiquer aussi au sein de leurs enseignes, Carrefour aussi. Donc on a une belle com qui va être mise en place cette année, ouais.
Et sinon, pour assister à un match, il faut débourser combien pour un ticket?
On garde pareil, on est très fidèles sur ça, on garde les mêmes prix que chaque année, donc on est à 9 euros la journée et on est à un pass de 15 euros pour les 2 jours.
Alors selon Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, la Coupe du Monde féminine est commercialisée aujourd'hui comme un sous-produit de la Coupe du Monde des hommes. Elle s'était même indignée sur la manne financière que représentent les droits télévisés dans le football mondial. Seulement 1% revient au football féminin. Encore aujourd'hui, les féminines pâtissent de cette comparaison constante avec les hommes.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est compliqué aujourd'hui dans la... Enfin, je pense que c'est vraiment deux disciplines, entre guillemets, à part entière. On parle du même sport, bien sûr, mais le foot féminin part de tellement plus tard que le foot masculin qu'on peut pas comparer en permanence et il faut pas comparer. Et c'est ce qu'on essaye de dire d'ailleurs, nous, alors pas forcément à nos spectateurs qui sont quand même très conscients et du niveau du foot féminin aujourd'hui qui est très bon, mais plus à nos partenaires en leur disant, voilà, surtout ne venez pas au stade en pensant voir un match de foot masculin parce que c'est pas ce qui va se passer. Ça va être un foot un peu différent, ça va être une façon aussi d'aborder les matchs, ça va être nous en tant que joueuses, une façon de coacher aussi qui est complètement différente chez les garçons et chez les filles. Il y a un aspect psychologique beaucoup plus important, il faut quand même le dire. Donc finalement, c'est deux sports qu'on amène souvent à être comparés, qu'il ne faut pas, parce que c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnes qui sont sur le terrain. Nous, il a fallu très longtemps qu'on ait cette espèce de double projet, comme on le disait, avec des études ou un travail à côté. Donc c'est pas un sport aujourd'hui qu'on peut comparer à celui des hommes. Du coup, ça se répercute forcément sur la médiatisation de ce sport-là, sur la masse financière que ça peut générer. Moi, je trouve pas ça tellement scandaleux qu'il y ait une différence tellement importante financièrement, parce qu'effectivement, tant que les médias s'intéresseront pas plus à ce sport-là, il n'y aura pas forcément autant d'argent que chez les garçons. C'est peut-être pas plus mal aussi. Le but, c'est pas non plus d'arriver au niveau des garçons et d'arriver à une espèce de starification de ce sport-là. C'est des joueuses qui restent pour la plupart très accessibles. C'est ce qui plaît au public. Il faut surtout pas que ça change. Donc je pense que le foot féminin doit trouver sa place. Elle est en train de la trouver, de se la créer depuis quelques temps maintenant. Et doit suivre son chemin qui sera évidemment différent de celui des hommes et du foot masculin. Ouais.
Au niveau sportif, quand on regarde un match de foot féminin et masculin, quelles sont les différences?
C'est plus lent. Ça, c'est évident. Il faut quand même le dire pour ceux qui n'ont jamais vu de match de foot féminin. Et je les invite vivement. Mais effectivement, le foot féminin est plus lent. Et ce qui peut être intéressant, c'est que pour des gens un peu novices ou pas forcément avertis, ça laisse plus le temps de voir en place les systèmes de jeu qui se mettent.
C'est plus tactique, oui.
C'est plus tactique, certainement. Mm-hmm. Je dis pas que le foot masculin est moins tactique, mais c'est vrai que ça se voit plus parce qu'on a le temps de voir le ballon passer d'un côté et puis de l'autre. On a le temps de voir effectivement un jeu se construire. C'est très agréable parce que techniquement, effectivement, c'est quand même aujourd'hui très propre. Le ballon sort peu de la surface de jeu. Il y a très peu d'arrêts de jeu. Mm-hmm. Qu'on le veuille ou non, effectivement, il y a moins de cinéma, ça c'est vrai. Voilà. Peut-être aussi parce qu'il y a moins d'argent, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est un football qui est fluide, qui est plus lent que le foot masculin, une fois de plus, si on doit le comparer. Mais qui est peut-être aussi plus à même à créer du spectacle aujourd'hui, je crois.
Il y a des joueuses qui sont aussi de plus en plus influentes, comme par exemple Sakina Karchaoui. Médiatiquement parlant, on a l'impression que le football féminin est de plus en plus important. Est-ce que vous faites ce constat?
Oui, bien sûr. Nous, on le fait aussi par rapport au partenariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus à prouver que le sport, que le foot féminin est bankable, en fait, finalement. Parce qu'il y a des filles qui le représentent très bien, parce qu'on le voit sur le nombre de followers, on le voit sur leur communauté, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On a aujourd'hui des filles qui sont des vrais modèles pour les petites, donc pour les partenaires, et qui véhiculent des choses très positives.
Vous le disiez aussi, le fait qu'elle soit très abordable, ça rend aussi le football féminin, ça lui donne vraiment une autre image.
Ouais, bien sûr. L'an dernier, nous, on avait un peu peur, je ne vous cache pas, à l'idée d'accueillir le Paris Saint-Germain, qui est quand même arrivé à 40. Donc voilà, 40, un staff de 40, c'est quand même énorme. Et puis on s'est dit, bon, il y aura leur boulot, bien sûr, il y aura Chéroux, il y aura Mandy, mais est-ce que ces gens-là vont être accessibles? Est-ce qu'on va pouvoir leur parler? Et effectivement, ça a été complètement le cas. C'est-à-dire que leur boulot s'est promené dans le stade... de façon très naturelle et très simple, elle répondait aux questions des uns des autres. Chéroux, c'est pareil, Olivier et Chouafny aussi, qui sont quand même tous des anciens grands joueurs. Donc, ils jouent vraiment le jeu, ils sont là aussi pour ça. Ils savent qu'ils doivent rendre au public ce qu'ils sont en train de leur donner aujourd'hui et que le foot féminin ne se développera qu'avec les gens autour qui les regardent. Donc, elles en ont vraiment conscience, ouais. Et ça, c'est intéressant.
Alors justement, pour parler du PSG, on voulait y venir. Qu'est-ce que vous pensez du choix de la sélectionneuse des Bleus de ne pas avoir retenu Marie-Antoinette Katoto? Elle est pourtant la meilleure buteuse de la D1 avec 22 buts inscrits cette saison.
Ouais, joker. Bah moi, je l'aurais sélectionnée, mais je ne suis pas sélectionneur. Donc j'imagine qu'elle a fait ce choix-là de façon parfaitement réfléchie. Ça, c'est évident parce que Corinne Diacre est quelqu'un qui, je pense, réfléchit énormément et elle ne fait rien au hasard. Je pense que, comme elle l'a expliqué, elle a plus réfléchi au groupe que finalement à la performance individuelle de Katoto, qui paraît, selon elle, un peu jeune, notamment au niveau du caractère. Donc c'est vrai que sur ce type-là d'événement, et je pense que Didier Deschamps, c'est un peu de la même façon qu'il a composé l'an dernier. Il faut plus réfléchir collectif qu'individualité. Il faut créer un groupe. Et peut-être que Katoto n'était pas encore tout à fait prête pour ça.
Est-ce que vous, votre avis par rapport justement à cette sélection, est-ce qu'il y a une joueuse pour vous, je sais pas, un coup de cœur ou par rapport à sa position
Alors, j'ai pas forcément de coup de cœur parce que je suis pas... le type de personne à être fan de quelqu'un. Mais par contre, ouais, il y a des joueuses qui sont incroyables. Je pense aussi qui seront peut-être sur leur dernière Coupe du Monde. Mm-hmm. Je pense que ça va être aussi un transfert de génération. Donc, c'est peut-être une des dernières Coupes du Monde où on aura les filles de l'ancienne génération. On pense à Camille Abili qui a déjà pris sa retraite. Mais ce type-là de joueuses, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, même si elles en sont pas quand même à la fin. Mais il y aura, je pense, une vraie passation de relais entre les anciennes et les nouvelles. Et non, il y a énormément de joueuses que je respecte beaucoup, que nous, on a vu jouer en direct parce qu'on a reçu Lyon la première année, qu'on a reçu donc Paris et Montpellier. Donc finalement, on en a vu beaucoup évoluer et elles sont assez incroyables. Ouais.
En décembre dernier, il y a eu une grande première dans l'histoire du foot féminin. Ada Eichberg est devenue la première Ballon d'Or. C'est une réelle avancée pour le football féminin.
Ouais, alors c'est un peu triste de dire que ça arrive en 2018. Pour le coup, c'est aussi certainement un coup un peu de marketing et commercial. On va pas se leurrer parce qu'effectivement, le foot féminin, c'est quand même aujourd'hui assez sexy sur la scène médiatique et on ne pouvait pas, je pense, cette année faire un ballon d'or sans en rendre un à une fille. Mais oui, c'est vrai que c'est une avancée. On va pas cracher dessus. Je pense que chaque petite avancée et un ballon d'or, c'est quand même pas rien parce qu'il y avait quand même tous les médias les plus influents au monde. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est une des avancées qu'il faut mettre en avant. J'espère que ça en amènera d'autres, plus concrètes, plus durables. Mais c'est un bon premier vrai pas, ouais, clairement.
Une autre avancée aussi, c'est lorsque Corinne Diacre, la sélectionneuse donc de l'équipe de France, est venue annoncer sa liste aux 20h de TF1. Et ça y est, on traite l'équipe de France féminine comme masculine.
Ouais, ça c'est incroyable. Ça, c'est vrai que nous, en tant que joueuse ou ancienne joueuse, d'avoir vécu une annonce de liste en direct sur TF1 à 20h, c'était vraiment une fierté, je pense, pour toutes les filles qui ont pu jouer au foot à un moment donné. Puis ça donne vraiment de la crédibilité à cette équipe nationale et ça prouve aussi que le pays est derrière elle. Donc c'est voilà, puis le dispositif que met en place TF1 sans égal et puis du coup qui est le même que pour les garçons, ça prouve aussi qu'il y a un vrai intérêt autour de ce sport, ça c'est clair.
C'est un début aussi pour le football féminin.
Ouais, c'est un début, alors j'espère que ça sera pas une fin et que ça va continuer et voilà, en cas de mauvais résultats de l'équipe de France, qu'on n'attend pas, bien sûr, que ça ne retombera pas comme, voilà, aussi vite que c'est venu finalement. Mais je pense qu'on est sur quelque chose qui aujourd'hui est durable, qui a été construit longuement, réfléchi par la Fédération française aussi, par l'UEFA, par la FIFA, par les instances, et que le foot féminin va vraiment prendre une place importante dans les années à venir. Ouais.
Plus récemment, Stéphanie Frappard a arbitré la rencontre Amiens-Strasbourg. Ouais. C'était la première femme arbitre centrale de l'histoire de la Ligue 1. Là aussi, c'est une avancée.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup quand on parle de foot féminin des joueuses, mais il y a tout le staff autour, il y a les entraîneurs, il y a les coachs, il y a les dirigeants, il y a bien sûr les arbitres. Donc on assiste à une féminisation plutôt globale de ce sport. Et ça, c'est très intéressant. Et nous, d'ailleurs, cette année, on a décidé de faire appel à un corps arbitral 100% féminin, qui seront tous des arbitres fédérales. Donc c'est la fédération qui nous aide sur ça. Donc il n'y aura que des femmes arbitres autour de la Women French Cup cette année.
Que des Françaises ou...
Ouais, que des Françaises cette année. On n'a pas encore passé le cap d'aller chercher des arbitres internationaux, mais ça a été en discussion. Ouais.
Parce que du coup, en France, il y a des centres de formation, je suppose, pour les arbitres françaises.
Ouais, exactement. Français et française, il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Ouais.
Alors, est-ce que selon vous, désormais, les femmes occupent la même place que les hommes dans le football? Est-ce qu'elles devraient occuper la même place? Ou au contraire, justement, comme vous le disiez, vu que c'est un peu deux sports différents, est-ce qu'il faut rester comme ça? Voilà, savoir qu'il y a les femmes, les hommes, c'est un peu différent. Ou alors, il faudrait les mettre vraiment ex aequo sur la même place.
Ben, moi, je vais prendre un exemple assez concret. C'est que, en tant que joueuse, j'ai apprécié vraiment énormément jouer en mixité. Pendant 4 ans, avec les garçons. Et justement, pas... Alors, évidemment, les premiers mois, les garçons ont toujours tendance à dire « c'est une fille, il va falloir qu'elle fasse ses preuves x2, peut-être, pour avoir sa place sur le terrain. » Mais une fois que c'était fait, on était parfaitement intégrés. Et il n'y avait plus de distinction entre une fille et un garçon. Finalement, on avait le même âge, on avait la même passion et on tapait dans le même ballon. Donc, il n'y avait plus de distinction qui était faite. Et ça, c'était assez intéressant. Après, physiquement, évidemment, ça ne peut pas durer. Donc, il y a un moment, il faut créer des sections féminines. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que souvent, on se retrouve avec un club dans le club. C'est souvent ce qu'on reproche aussi au foot féminin. Mmh. Il faut savoir, je pense, que le problème qu'on pose très souvent, c'est de dire les filles s'excluent elles-mêmes. Ce n'est pas tout à fait faux. Il faut être aussi lucide sur ça. C'est vrai que moi, pour avoir fait plusieurs clubs, on a tendance parfois à se mettre un peu nous-mêmes à l'écart et à se taper un peu dessus toute seule. Il faut aussi que les filles fassent le pas d'aller vers les garçons, qu'il y ait des échanges qui se créent. Et ça doit se faire au plus bas niveau pour que les mentalités évoluent au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut créer dans des clubs amateurs des sections vraiment avec des vases communicants, avec des matchs amicaux entre les garçons et les filles. On jouait très souvent contre les vétérans. Ça aussi, c'est très intéressant. Mais je pense que ça doit se jouer dans les clubs au niveau amateur et dès le plus jeune âge et sur des sections seniors ensuite. Ouais.
Avec tout ce qu'on vient de dire là, est-ce qu'on peut dire que l'année 2019 est l'année du foot féminin?
Oui, ouais, en tout cas en France c'est sûr, parce qu'en accueillant cette Coupe du Monde ça ne peut pas être autrement. Je pense que par rapport à l'engouement et par rapport aux différents records qui ont été battus ces derniers temps, à la fois dans les stades, à la fois en termes d'audience, tous les chiffres l'indiquent. Donc sportivement il n'y a plus qu'à pour nous aller remporter une Coupe du Monde, ouais.
Et vous, votre regard de joueuse, un petit peu, nous dire, voilà, le football féminin, concrètement, quand on est joueuse, comment ça se passe?
C'est compliqué, en fait, ça dépend du niveau auquel on espère évoluer, mais c'est évident que quand on commence à atteindre un niveau national ou pré-national, c'était compliqué. Ça allait peut-être un peu moins aujourd'hui. Il y a quand même des clubs qui font beaucoup d'efforts et qui commencent à mettre en place des choses vraiment intéressantes. Bordeaux, on pense, qui a quand même accédé à la D1 il n'y a pas si longtemps que ça et qui s'est vraiment professionnalisé. Le club de Marseille qui réaccède à la D1 l'an prochain, ça c'est aussi un signe assez fort. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de global aujourd'hui, de se dire que le foot féminin va se professionnaliser, que les grandes villes s'accaparent aussi leur section masculine et leur section féminine et que voilà, c'est quelque chose de global et c'est acté, quoi. C'est-à-dire que voilà, le foot féminin doit se développer et tout le monde a l'air de vouloir y contribuer.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, ouais.
Merci beaucoup Camino. On rappelle donc le rendez-vous. Donc c'est début août. Est-ce qu'on peut acheter des billets dès aujourd'hui?
Pas encore. On est encore sur l'annonce des équipes et des partenaires majeurs. Et puis dès le mois de juin, on pourra commencer à acheter.
Donc à partir du mois de juin.
Ouais, exactement.
La date est notée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon courage pour l'organisation.
Merci beaucoup.